et des outils de pierre taillée découverts en Algérie. Axel, on s'intéresse donc à la technologie chez les premiers groupes d'humains en Afrique et c'est à la une de la science aujourd'hui.
Oui Mathieu, une nouvelle fouille sur le site d'Aïn Bouchrit au sud-est d'Alger ont permis de mettre au jour deux gisements d'outils anciens, vieux respectivement de 2,4 millions d'années et 1,9 million d'années. Plusieurs outils de découpe, des percuteurs et des os comptant des traces de dépeçage. Pour en parler, nous sommes au téléphone aujourd'hui avec Hélène Roche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS et co-découvreuse des plus vieux outils de pierre connus pour l'instant. C'était au Kenya en 2015, ils sont datés à 3,3 millions d'années et ne sont pas attribués au genre humain. Ici, ces outils découverts à Alger, en Algérie, ils sont datés à 2,4 millions d'années et on les attribue au genre humain. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous permet de le dire ?
Pour l'instant, il n'y a pas de, on n'a jamais trouvé de reste d'Australopithèque en Afrique du Nord, dans le nord de l'Afrique.
Donc c'est une interprétation.
Alors, c'est une interprétation. Il n'y a pas du tout de, voilà, c'est simplement une interprétation.
Mais si jamais on devait mettre un nom sur ce genre, quel genre d'homo on pourrait imaginer ?
Bon, ce serait Homo erectus à ce moment-là. Il y a des restes d'Homo erectus en Algérie, mais pas d'Australopithèque. Ça, c'est pour l'instant pas encore. Ou peut-être jamais, je ne sais pas, mais en tout cas pas encore.
Les plus vieux outils qu'on attribue à l'homme, on les a trouvés où ?
C'est en Afrique orientale, en Afrique de l'Est.
Hein. Ouais. Éthiopie, Tanzanie ?
Kenya.
Ouais.
Ouais, tout à fait, oui.
Sur des datations qui sont de quel ordre à peu près ?
Autour de 2 millions d'années.
D'accord. Donc c'est le
moins,
même genre.
Un peu plus. Oui, tout à fait.
Donc c'est une surprise quand même de trouver des outils aussi vieux au nord de l'Afrique.
Ben, une surprise, pas tout à fait, parce que là c'est le site d'Aïn Bouchrit, mais c'est tout à fait proche, dans le même niveau que d'un autre site qu'on appelle Aïn Anesh, qui est un site qui a été trouvé dans les années, enfin, au début de première partie du XXe siècle, et qui se sont très bien connus à Aïn Anesh. Hein. Donc ce n'est pas tout à fait une surprise. Ce qui est une surprise, par contre, c'est le recul de jusqu'à 2,4 millions. On savait que l'Aïn Anesh, les outils de l'Aïn Anesh étaient à 1,9 millions à peu près. Et là, apparemment, ils ont trouvé d'autres niveaux sous celui de 1,9 million et qui serait donc daté de 2,4 millions dans lequel ils ont trouvé à la fois des outils taillés et des restes de faune portant des traces de découpe ou de martelage.
Et de quel type d'outils on parle si on doit les imaginer un peu? Ils ont quelle forme?
Alors, il y a plusieurs types d'objets. Il y a des nucléus classiques, je dirais, de l'Holdoweyen, bifacial ou unifacial. Des éclats qui se tombent de ce nucléus quand on le taille. Et puis, il y a toute une série de nucléus ou outils, je ne sais pas exactement, c'est-à-dire...
C'est quoi un nucléus, s'il vous plaît, Hélène Roche ?
Un nucléus, c'est un objet dont on tire des éclats. Si vous voulez, le but du débitage de nucléus, c'est d'obtenir des éclats.
Donc, c'est un outil qui sert à faire d'autres outils, en gros. C'est un outil intermédiaire.
C'est un objet qui sert à faire d'autres outils. On prend un bloc... Et on frappe dessus d'une certaine façon, on obtient des éclats, et voilà, c'est ça le nucléus.
Si on s'amuse un peu à comparer les techniques, quelles sont les différences entre ce que fait l'homme ici en Algérie, en Éthiopie, il y a 2 millions d'années, et ce que vous avez trouvé, vous, dans l'ouest Turkana, daté à 3 millions d'années, et qui n'est pas issu de la main de l'homme ?
À l'Omekwi, au Kenya, il y a 3,3 millions d'années, on a des objets qui sont très volumineux, très gros.
Oui. Hein.
Entre 20 et 30 cm de diamètre, dirons-nous. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente en termes de poids.
Oui, c'est lourd, c'est un gros caillou.
Et même en termes de dimension, pour manipuler ça, pour qu'un hominidé soit capable de manipuler ça avec ses mains, c'est quand même assez gros. Mmh. Alors que plus tard, que ce soit d'ailleurs à l'Aïn Anesh, à Aïn Bouchrit ou en Afrique orientale, en Afrique de l'Est, on trouve des objets, des outils beaucoup moins volumineux, plus petits. Il est certain que les hominidés à 3,3 millions ne pouvaient quasiment pas prendre un de ces blocs dans une main et la tailler et la débiter, c'est-à-dire frapper dessus avec l'autre main, vous voyez, en bimanuel, quoi.
Donc on prenait ça à deux mains et on le laissait tomber, c'est ça que vous voulez dire ?
On le laissait pas tomber, mais tout en le maintenant, on le frappait sur une enclume, enfin une autre pierre, ce qu'on appelle nous un percuteur dormant dans notre jargon.
Oui.
Et puis l'autre technique, c'était dite bipolaire, qui ressemble beaucoup à ce que font d'ailleurs les chimpanzés quand ils taillent des noix, c'est-à-dire ils prenaient le bloc, ils le mettaient sur une pierre et le maintenait avec une main, et avec l'autre main, il le percutait avec le percuteur. Enfin, il le frappait avec le percuteur. Donc ça, c'est la percussion bipolaire.
Donc on voit une dextérité qui augmente, et puis on ne remet plus le hasard dans l'équation. On essaye de faire les choses nous-mêmes avec deux mains.
Oui, oui, oui. à fait. Et alors le contrôle est certainement plus important.
Oui.
Le contrôle à la fois visuel et manuel. Tandis que dans les deux techniques que je vous ai précédemment décrites, bon, le contrôle est très très limité. Il n'y a pas de contrôle en fait. Il n'y a pas de contrôle, très peu de contrôle visuel et le contrôle manuel est un peu hasardeux.
Mais ça, on l'attribue à qui? Parce que 3 millions 3, c'est quasiment Lucie l'Australopithèque quand même, Hélène Roche.
Tout à fait, absolument. Bah écoutez, au Kenya même, à côté du site de l'Omekwi où on a trouvé ces objets, c'est là que Yves Leakey a trouvé le Kenyanthropus platyops, qui était un Australopithèque. Soit attribué par certains à Farensis et à d'autres, étant une espèce à part, Platyops, Pinanthropus Platyops. Mais enfin bon, ça fait partie des Australopithèques de toute façon, ça c'est certain.
Ce qui est rigolo, Hélène Roche, entre guillemets, c'est qu'avec toutes ces découvertes, on trouve partout des outils, que ce soit attribués à l'homme ou à ses prédécesseurs, mais jamais on ne trouve de fossiles de la main qui les a taillés.
Peut arriver, mais de cette époque-là, c'est très rare. Je crois même qu'on n'en a pas d'exemple pour l'instant. Marie Liquid à Olduvai avait trouvé le Zingentrope, qui est aussi un Australopithèque robuste, enfin un paranthrope plutôt robuste, prédécesseur de l'homme, hein, mm-hmm. du genre Homo, dans un de ces sites. Mais au départ, curieusement et de façon amusante, ils ont pensait que c'était plutôt le gibier que celui qui avait fait les outils. Mais maintenant, bien sûr, puisqu'on trouve des objets taillés avant le genre Homo, on peut se demander pourquoi est-ce que le paranthrope n'aurait pas aussi taillé des outils.
En tout cas, les outils qui nous intéressaient aujourd'hui, ces outils algériens datés de 2,4 millions d'années, on les attribue au genre Homo. Évidemment, on n'est plus du tout avec Australopithèque, Hélène Roche.
Je ne pense pas. Enfin, du moins, rien ne donne à penser qu'on en soit là. Maintenant, vous savez, le genre Homo, il apparaît en Afrique. S'il était présent en Afrique du Nord, à quel moment il apparaît?
Merci beaucoup, Hélène Roche, pour vos précisions. Et merci, Axel. On se retrouve lundi.
À lundi, Mathieu.
Allez, dans un instant, le club.